Comme chaque mercredi à 21h sur votre radio locale, voici Wagon Livre, votre rendez-vous culturel depuis novembre 2010 sur Radion. Bonsoir et bienvenue à bord de votre émission littéraire, Yannick Petit en votre compagnie jusqu'à 22h. Dans un premier temps, nous allons vous proposer un entretien avec Perico Legas, chroniqueur gastronomique et rédacteur en chef de l'hebdomadaire Marianne, à l'occasion de la sortie en librairie de son dictionnaire impertinent de la gastronomie, paru chez François Bourin, éditeur. Dans quelques minutes, il sera question de gastronomie, ou du moins ce qu'il en reste. Sait-on encore manger en France ? Telle est la question que l'on peut se poser lorsque on aborde ce dictionnaire impertinent de la gastronomie sous la plume de Perico Legas. On a donc pu s'entretenir avec lui vendredi dernier, alors que l'auteur de ce dictionnaire était invité à Dijon, au Club des écrivains de Bourgogne. Tout cela pour vous mettre en appétit, mais pour patienter, d'abord une petite mise en bouche musicale avec un titre de GL, La Mayonnaise. Bonne soirée sur Radion.
Dans un bol assez large, mélangez le jaune d'œuf et la moutarde jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène. Incorporez alors un petit filet d'huile, juste quelques gouttes, en tournant vivement toujours dans le même sens avec une cuillère en bois ou en utilisant un fouet. Quand je t'ai vu, belle inconnue, j'ai sorti les couverts, mes coupes en cristal et le service de ma grand-mère. Je t'ai aimé, tu m'as aimé, on avait la recette de l'amour parfait servi tout chaud sur une assiette, à forcer sur la crème et sur les petits mots tendres. Tout ça manquait de sel pour que la mayo puisse prendre. C'est le vent qui a tourné et la mayonnaise avec nos promesses et nos baisers sont devenus des prises de bec. J'ai tout de suite su que je t'aimerais tout cru, sans crème, sans condiment, juste un lit d'amour, du sexe et du piment. Mais qui l'eût cru, c'était déjà cuit. On vivait dans la fournaise, on s'est empâté dans notre pot de mayonnaise. À force des je t'aime, on a pris des kilos, tout ça manquait de sel pour faire une belle mayo. Promesses et nos baisers sont devenus des prises de bec. C'est étendu, on s'est battu, j'ai mis les pieds dans le plat. On a fait des omelettes, on a remonté le thermostat. Je t'ai haï, tu m'as trahi, je te disais des fadaises. J'ai tout essayé pour faire reprendre la mayonnaise. De la crème à 0%, du thym, du basilic, du curry, du safran et une dose d'arsenic. Commencez alors à verser l'arsenic petit à petit, chaque jour en amince filet, en tournant bien entre chaque ajout. Lorsque la mayonnaise commence à prendre, ajoutez quelques aromates pour faire passer le goût un peu douteux de l'arsenic. C'est le vent qui a tourné la mayonnaise avec nos promesses et nos baisers sont devenus des prises de bec.
Radion, toutes vos chansons préférées.
Maintenant que nous avons fait monter la mayonnaise, nous pouvons nous mettre à table. L'entretien de ce soir se trouve être au cœur de l'actualité récente liée au scandale de la découverte de viande de cheval dans les plats cuisinés de Marc Findus. Alors qui est Perico Legas, l'auteur du dictionnaire impertinent de la gastronomie ? Perico Legas est un critique gastronomique engagé pour la cause du goût juste, spécialisé dans les problèmes de consommation. Il s'oppose régulièrement à une certaine industrie agroalimentaire qu'il accuse de dénaturer les aliments. Perico Legas est le journaliste qui a mené l'enquête dans le film intitulé « Nos enfants nous accuseront » réalisé par Jean-Paul Jaud et qui a été sorti sur les écrans il y a maintenant quelques années, c'était en 2008, dont le thème central est l'empoisonnement des aliments par les toxiques, pesticides, fongicides, engrais, etc. de la chimie agricole. Il est le co-auteur avec l'écrivain et membre de l'Académie française Daniel Salnave de « Nos amours de la France, République, Identité, Région » aux éditions textuelles en 2003, une tentative de compromis historique entre une jacobine orthodoxe et un défenseur des particularismes locaux. Perico Legas est marié à Natacha Poloni, journaliste à Europe 1 et au Figaro. Il est le père de 3 enfants. Voici donc, sans plus tarder, l'entretien enregistré vendredi dernier à Dijon avec Perico Legas, défenseur du bon goût, du terroir et des paysans.
Ils étaient encore près d'un million au début des années 80. Et ils ne sont plus que 350 à 400 000, ça dépend ce que l'on considère comme agriculteur ou pas. Le problème, c'est que on est sur une thématique gastronomique, culinaire, alimentaire, et que je pars du principe que sans produit, il n'y a pas de cuisine française. Cuisine française, c'est du produit. Sans produit, pas de cuisinier. Et que pour avoir des produits, il faut des paysans, des hommes et des femmes qui cultivent la terre, qui élèvent des animaux et qui génèrent ces produits. Donc mon équation est simple. Sans paysans, pas de cuisine, pas de cuisinier. Et le patrimoine gastronomique français ne repose pas sur un talent ou un génie présupposé d'une population qui générerait comme ça des cuisiniers, mais parce que le patrimoine agricole français a généré cette biodiversité, ces goûts différents, ces produits différents, et ce patrimoine agricole est devenu un patrimoine culinaire qui a commencé au niveau familial et qui a lui ensuite généré des vocations où des gens ont dit on va aller plus loin dans l'élaboration des plats. On va aller loin dans la combinaison des saveurs, la recherche. Et c'est donc cette agriculture qui a formé une société que j'appelle gourmande, qui a ensuite, elle, généré des cuisiniers. Donc, le jour où nous n'aurions plus de paysans, nous pourrions avoir tous les étoilés du monde et les plus grands cuisiniers de la terre. Le jour où nous n'aurons plus de paysans en France pour produire des produits français, eh bien, je considérais qu'il n'y aura plus de cuisine française.
Alors, s'il n'y a plus de cuisine française, il n'y aura peut-être plus d'auberges. Et alors, on est très contents, nous, y connaît, parce que effectivement, il y a un article, une occurrence consacrée à l'auberge. Et dans Lyon, notamment, vous mettez en valeur l'auberge du Pot d'Étain. Et vous en mentionnez 7 autres auberges aux 4 coins de France. Et vous définissez l'auberge comme une maison familiale transmise de génération en génération où l'accueil chaleureux de la patronne dans des murs patinés annonçait un repas bourgeois mitonné par le patron à la gloire des saveurs régionales. Alors le Pot d'Étain, coup de cœur.
On est dans la consécration de cette définition que j'ai faite. Le Pot d'Étain, c'est d'abord une maison qui a un passé d'auberge, de village, partiellement relais de diligence, c'était la halte. Au cœur de l'île sur Serein, ce village des bords du Serein, dans cette Yonne bourguignonne, à la frontière de l'ancienne Champagne, on est dans la vallée du Serein qui va vers Chablis et qui arrive d'Avallon, très très beau paysage. Et Catherine et Alain Pécherie, un jour, ont décidé de ressusciter cette maison qui était un peu délaissée. Et ils en ont fait le prototype de la très belle et très performante auberge à la française. Pas à l'ancienne. À l'ancienne, c'est côté cœur et côté savoir-faire, c'est à l'ancienne. Mais c'est une auberge résolument tournée vers le présent et vers l'avenir, avec une cuisine qui est faite par leur fils. Donc on est vraiment dans une structure familiale. C'est Fabien Pécherie qui est au fourneau. Et on travaille les produits de l'endroit, de la saison, avec des idées très intelligentes, beaucoup de goût, beaucoup d'imagination, sans jamais dénaturer le produit. Aucune fusion et aucune confusion des genres assortie d'une des plus belles caves de Bourgogne. Je me permets de dire de la terre, quand je vois les milliers de références qu'il y a de vins avec des crus et des domaines que certains très grands restaurants français s'arracheraient s'ils savaient que que la modeste famille pêcherie dans son modeste pot d'état, dans son modeste village, dispose d'une cave avec autant de grands crus de domaines si prestigieux, eh bien, c'est en soi un événement. Et on a cette cuisine qui est faite au service du vin. On va au pot d'état, évidemment, pour ouvrir un de ces flacons rares vendus à un prix totalement incomparablement moins cher qu'ailleurs. Et on a une tradition très iconaise de l'auberge de voyage. Lyon est un département de passage. Joigny, Avallon, l'hôtel de la Poste à Avallon, qui fut une des tables les plus prestigieuses de France. Les gens ont oublié, c'était du niveau aujourd'hui de ce que peut être Bocuse. Monsieur Hure était à l'époque propriétaire de cette maison, 3 étoiles Michelin dans les années 50, et quand on partait de Paris, la grande bourgeoisie savait qu'il fallait arriver à midi à Avallon pour faire un grand repas. Donc Lyon, et puis Joigny avec la famille Lorrain, Lyon se trouve en gros... Ce sont des paramètres automobiles. Lyon se trouve en gros, quels que soient les moyens de transport des années 30, entre 2 et 3 heures de Paris. Donc si on portait le matin, eh bien on arrivait à déjeuner dans une des villes de Lyon où une belle auberge ou une belle maison attendait le voyageur pour préparer un repas merveilleux.
Alors à côté du repas bourgeois mitonné par le patron, il y a le hard discount que vous dénoncez et vous écrivez « On balance de la merde aux pauvres ».
Oui, le hard discount est fait pour écouler des produits à bas prix, à très bas prix. Le hard discount, c'est encore moins cher que la grande distribution normale. À qui s'adressent ces produits bas de gamme, de bas prix? Quand on met bas prix, il faudrait mettre bas de gamme. Il faut bien préciser que c'est pas cher parce que c'est pas très bon. Et c'est destiné à qui? Aux revenus toujours les plus modestes. Voilà, donc on condamne le pauvre à bouffer de la saloperie. Ce n'est pas juste.
Alors, le dictionnaire est impertinent, mais vous tapez sur beaucoup, beaucoup de personnes. Les plus grands ne vous font pas peur. Hein. Accor, Nestlé, Jacques Chirac, hein, que vous...
Pour des raisons différentes. Accor, Nestlé, parce que ce sont des industriels et que je combats l'industrialisation de l'agriculture, l'industrialisation du goût, l'industrialisation de l'alimentation... Et je dénonce les responsables politiques français à qui les Français ont fait confiance, qui s'en fait passer pour des protecteurs du terroir et des paysans, et qui en fait ont été les fossoyeurs de l'agriculture paysanne française.
Mais l'actuel ministre de l'Agriculture semble trouver éventuellement grâce à vos yeux.
Dans ses propos, Stéphane Le Foll est un homme qui connaît parfaitement ses dossiers. C'est un gars de la Sarthe, hein, de la région de Loué. Ses grands-parents étaient agriculteurs en Bretagne. C'est un homme qui connaît ses dossiers, qui a pris la mesure du problème et qui tient un discours encourageant. Aura-t-il les moyens de mettre en place cette politique? Durera-t-il suffisamment longtemps pour pouvoir mettre en place ces projets? C'est autre chose. Mais j'ai senti dans l'homme, pour la première fois, au ministère de l'Agriculture, j'avais connu des précédents qui étaient souvent des énarques, des technocrates, des marchands d'illusions, quelqu'un qui va raisonnablement et modérément... gagner du terrain sur la problématique de l'agroécologie, c'est-à-dire ce qu'on peut refaire d'une agriculture à visage humain.
Alors, à suivre, on verra ce que ministre de l'Agriculture.
On sera à la fois vigilant et exigeant.
En revanche, je reviens un peu à l'idée de hard discount. Vous n'épargnez pas Jean-Pierre Coff. Dans l'article Coff, vous écrivez « Héros qui a raté sa sortie ». Et la fin de votre article est vraiment cinglant. Il vient de tout ruiner pour un plat de lentilles Leader Price, preuve que n'importe quel défenseur des valeurs culinaires peut finir par s'allonger sur un chèque. C'est cruel.
C'est la fin de ce texte. Je commence par faire l'éloge de Jean-Pierre Coff, dont je suis l'élève. Et mon discours est en grande partie le sien. C'est lui qui m'a appris à m'exprimer ainsi. Et je suis un enfant déchiré par ce que j'appelle la trahison de mon maître, qui, au lieu de continuer ce combat, est allé, pour des raisons totalement admissibles, évidemment qu'il faut moraliser la grande distribution et la faire venir sur le terrain de la bonne bouffe. Sauf qu'il est allé dans des conditions et dans des circonstances qui font que son discours, pour moi, n'est pas crédible. Il permet à Leader Price, aujourd'hui, de se targuer, de proposer des produits sains, mais dans l'ensemble, il entretient encore ce système de la grande distribution. Il légitimise la grande distribution et dit qu'il la moralise. Et pour moi, c'est un mensonge qui est dramatique pour les consommateurs français.
Dans votre dictionnaire impertinent de la gastronomie, bien sûr, vous revenez sur les quatre saveurs, hein, salé, acide, amer et sucré. Et alors là, vous dites qu'il y a une véritable catastrophe en France. Notre jeunesse, je vous cite, se gave de denrées molles et sucrées arrosées de boissons édulcorées au goût banalisé.
Oui. L'industrie s'est emparée de notre alimentation à travers la grande distribution et l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, une grande partie des citoyens français n'ont plus ce sens du goût, n'ont plus cette connaissance alimentaire. Ce n'est pas un reproche que je fais, c'est un constat. Et ceux qui sont les plus touchés sont évidemment les jeunes et les adolescents qui ne se nourrissent que de marques, de produits publicitaires. Il m'arrive souvent de rencontrer des lycéens. Je leur demande toujours en premier, qu'est-ce que vous avez dîné hier soir ? Dans la tranche d'âge 15-16-17 ans, et 8 sur 10 me citent des marques. Vivagel, Findus, j'ai mangé un igloo, j'ai goûté un Nutella, les boissons, c'est les boissons sucrées. Et quand je leur demande ce qu'il y a derrière cette marque, il y en a certains qui ne sont même pas capables de me dire si c'était du veau ou du poisson, de la viande ou du poisson.
Ah, vous parlez même d'abêtissement sensoriel, et on ne peut même pas dire que l'école peut initier au goût, parce que la semaine du goût, vous appelez ça la BA des faux culs du Rata, vous dites qu'en plus cette semaine du goût, elle est lancée à l'initiative du lobby sucrier,
oui,
qui est ravi de se donner bonne conscience.
Il s'appelle le CEDUS, c'était le lobby sucrier des betteraviers, et c'est lui qui eut l'idée, à l'initiative de mon collègue très connu Jean-Luc Petit-Renaud, de faire une semaine du goût. Et je dis, ça serait bien si ce lobby sucrier cessait de sévir par la commercialisation de produits sucrés qui polluent le goût de la jeunesse. Eh bien, ils font cette semaine pour se donner bonne conscience, et le reste du temps, ils continuent à déverser leurs horreurs alimentaires sur le marché. Donc, je trouvais ça un petit peu faux-cul de dire je fais une semaine du goût, mais je continue à empoisonner la jeunesse.
Et c'est vraiment impertinent, parce que vous dites que c'est l'une des plus affligeantes pitreries à laquelle participe la profession hôtelière,
oui,
qui en prend aussi pour son
grade.
Alors,
les cuisiniers, la semaine du goût, pour eux, c'est l'occasion de faire des menus promotionnels, de créer une animation qui fait venir de la clientèle. Or, ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis, puisque justement, c'est le sucre qui fait qu'il y a de moins en moins de clients compétents pour les restaurants.
Alors, vous dénoncez aussi, effectivement, le rôle de la fédération, la FNSEA. Ah. Et puis, on va bientôt se nourrir d'insectes aussi.
J'ai vu ça.
C'est l'avenir, ça.
Alors, c'est-à-dire que nous avons besoin...
Vous pensez un peu à cette idée ?
Je ne pense qu'à ça, puisque nous avons besoin de protéines. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut peut-être se passer de viande. D'après ce que des végétariens nous expliquent, à un moment donné, il faudra abolir l'élevage des animaux sur Terre. Mais il faudra quand même que l'être humain consomme des protéines carnées d'origine animale, puisque les protéines végétales qui peuvent être suffisantes ne seraient pas produites en quantité nécessaire. Et la solution, ce serait donc de manger des larves et des insectes et des vers de terre. Je ne sais pas, je vais réfléchir, mais je n'en suis pas là. Je voudrais quand même qu'on puisse arriver à éviter cette issue. Les mœurs au tempora mores. Les mœurs évoluent. Peut-être qu'un jour que le ragoût de hantan ou la fricassée de libellule, de sauterelle, sera à l'ordre du jour du guide Michelin. Je sais qu'il y a des civilisations où la consommation d'insectes grillés, et je connais des amis explorateurs qui ont trouvé ça délicieux. Pour l'instant, je préfère quand même me contenter de la grenouille et de l'escargot pour prendre des animaux un peu atypiques et rester dans la tradition culinaire bourguignonne.
Et puis vous dénoncez cette cuisine qui est victime, je vous cite, de kidnapping par des chimistes et des plasticiens d'art. Alors vous dénoncez cette cuisine là de Thierry Marx, et vous dites de Pierre Gagnaire par exemple, alors vous dites de lui, c'est sévère, hein, aucun de ces plats ne restera dans la mémoire de la cuisine française. Qu'en savez-vous finalement ?
Parce que ce sont des plats, on est dans l'évanescence, c'est-à-dire qu'on est dans la création spontanée, il n'y a aucune structure, il n'y a aucune origine, le plat ne vous raconte pas une histoire. Le plat vous raconte l'histoire du coup d'imagination que le cuisinier extrêmement talentueux qui est Pierre Gagnaire a eu au moment de faire son plat. Lui-même d'ailleurs, quand vous allez chez Pierre Gagnaire, souvent la formule a changé entre le moment de la commande et le moment où l'assiette arrive sur la table. Le chef explique « Ah, j'ai changé deux, trois trucs parce que j'ai évolué ». Donc il est dans l'improvisation poétique, ce sont des poèmes. Mais ça ne restera pas comme peut rester alors nos grands plats de tradition régionale en Bourgogne. Et comme par exemple le saumon à l'oseille inventé par Pierre Troisgros et Jean Troisgros dans les années 70. Voilà un plat qui restera éternellement. Cette cuisine-là, c'est une cuisine spectacle. Elle est comme un spectacle de rue. Elle dure l'instant où elle est produite, mais elle ne sera pas inscrite, elle ne sera pas gravée dans le marbre de la gastronomie française.
Alors, on termine sur une note malheureusement un peu triste. Il y a un peu plus de 10 ans, Bernard Loiseau se donnait la mort. C'est un ami avec
C'était
lequel
un ami
vous avez beaucoup
très cher et très proche, qui m'a beaucoup appris et beaucoup apporté.
On a dit aussi qu'il s'est donné la mort parce qu'il avait perdu cette étoile. On a parfois...
Sauf qu'il n'avait pas perdu. Il n'a pas perdu, il n'était pas question qu'il la perde, et son établissement ne l'a pas perdu. Donc ça, c'est une fausse piste. Disons que, pour généraliser, on ne donnera jamais l'explication précise du suicide d'un homme sur toute cette trempe-là. Disons que ce métier est un métier dur, avec des enjeux, des contraintes, des angoisses. La médiatisation peut, à un moment donné, porter au nu, peut apporter une forme de déstabilisation, et sur un tempérament comme celui de Bernard, qui était quelqu'un de très sensible, qui pouvait avoir ses fragilités d'homme passionné et convaincu, eh bien, le cocktail du désarroi s'est réuni à un moment donné, et voilà, le geste, voilà, peut-être qu'un suicide, c'est à un moment donné où qu'on peut éviter, et le destin l'a décidé ainsi. Je regrette, parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui nous manque terriblement par rapport à son discours de cuisinier, sa vision des choses, sa philosophie du goût était important. Je vais dire tout simplement, petit était le mort d'avoir eu raison d'une certaine façon contre un monde où on n'a plus le droit d'avoir raison.
On rappellera donc le titre de votre dernier ouvrage, Dictionnaire impertinent de la gastronomie, dans lequel on y apprend ce qu'est une grosse, que la paella impériale est un plat inventé par Jean-François Kahn, que la Chine est le premier producteur mondial de cornichons. J'ai appris ça.
Oui, alors que c'était dans Lyon, à Poigny.
Exact.
Voilà,
exact.
Lyon était le terroir à cornichons, et bien maintenant il faut aller à Pékin pour manger du cornichon. Voilà. On va bien à Bucarest pour chercher la lasagne de bœuf.
Et que le croissant que l'on trempe dans son café est l'invention d'un boulanger viennois lors du second siège de Vienne par les Turcs en 1863. Merci Perico Legas.
Merci à vous.
Et bonne soirée à vous.
On avait des haricots verts au début dans notre univers. Tant et plus, c'était l'amour fou. Tu disais, les filons sont fous. Moi, j'avais des haricots blancs sur mon gilet de prince charmant. J'écoutais dans notre jardin les gousses d'un bonheur serein. Toi, t'avais des haricots rouges qui voyaient même aux infrarouges. Battre mon haricoeur croquant, tu me trouvais le plus craquant. Tu peux apprendre le tricot, c'est bien la fin des haricots. La saison des amours passées, que reste-t-il à ramasser? Puis on a eu des flageolets, tu trouvais le jardin plus laid. Qu'importe les matins de brume, il te fallait de beaux légumes. Puis on a eu des pois gourmands, tu disais c'est pas le moment. Qu'importe les matins banals, tu voulais un panier génial. Puis on a eu des petits pois, tu disais il manquait plus que ça. Fais-moi de gros haricots verts et des bleus aussi tant qu'à faire. Tu peux apprendre le tricot, c'est bien la fin des haricots. La saison des amours passées, que reste-t-il à ramasser? Maintenant c'est les haricots secs qui donnent et faudra faire avec. On ne peut guère espérer mieux, c'est la misère entre nous deux. Y'a même un rang de pois cassés, tu m'en vois bien embarrassé. J'ai beau les recoller dans le plat, tu les fais voler en éclats. Dans mon pauvre jardin en friche, y'a plus qu'une poignée de pois chiches. Tu dis, je veux les haricots beurre, mieux vaut ça que le déshonneur. Tu peux apprendre le tricot, c'est bien la fin des haricots. La saison des amours passées, que reste-t-il à ramasser?
Radion, au cœur de la Bourgogne, 90.5.
C'était La fin des haricots par Thierry Desseux, extrait de son album Villa aux roses. Le coup de cœur du libraire, eh bien, le moment est venu d'accueillir notre libraire partenaire Evelyne Levallois, de la librairie L'Autre Monde, au 42 rue Aristide Briand, à Avallon. Bonsoir Evelyne.
Bonsoir Yannick, bonsoir à toutes et à tous. Evelyne pour la librairie L'Autre Monde à Avallon. Alors le coup de cœur de la semaine sera Le garçon qui voulait dormir, d'Aaron Appelfeld, aux éditions Point, donc un petit poche. Appelfeld est un survivant des camps, il a aujourd'hui 80 ans, à 8 ans il va être déporté dans un camp de la mort, il va réussir à s'échapper et il va survivre parce que pendant toute la guerre il va se cacher dans les forêts de Sibérie. Cette histoire il l'avait déjà racontée dans un livre qui avait eu un prix à l'époque qui s'appelait L'histoire d'une vie, qui lui aussi est disponible chez Point. Ici, dans le titre que je voudrais défendre ce soir, Le garçon qui voulait dormir, Appelfeld raconte ce qui se passe après les camps. Qu'est-ce qui se passe pour un jeune homme qui n'a plus de famille, plus de maison, plus d'attache, qui a 17 ans, il va faire le tour de l'Europe pour retrouver les gens qu'il aime les endroits qu'il a connus, tout a disparu, il n'a plus rien. Alors il va s'attacher à d'autres juifs qu'il ne connaît pas, qui vont l'emmener aussi faire le tour du monde, enfin le tour d'Europe, à la recherche d'un endroit où aller. Alors ils entendent dire que peut-être il y aura un bateau qui part pour la Terre Promise. Et les voilà qui arrivent sur les côtes italiennes à la recherche d'un endroit où aller. Évidemment, il y a un bateau qui va finir par arriver pour ce qu'on appelle encore à l'époque la Palestine, c'est pas encore Israël. Hein. Et le roman débute, on est sur les côtes italiennes, on attend ce bateau, et notre personnage, Erwin, qui a 17 ans, passe son temps à dormir. D'où le titre, le garçon qui voulait dormir. On sent une grosse, grosse dépression, hein, quelque chose comme ça. Il embarque, et quand il arrive en Israël, enfin, ce qui sera plus tard Israël, il va être pris en main par des mouvements paramilitaires, sionistes, qui vont tout lui apprendre, parce qu'il ne sait pas lire. Évidemment, il a plus ou moins grandi dans les forêts tout seul. Il ne sait pas se comporter. Ils vont lui apprendre une nouvelle langue, qui est l'hébreu. Ce n'est pas sa langue maternelle. On va lui donner un nouveau nom. Il n'aura plus le droit de porter son ancien nom. On va façonner complètement sa personnalité. On va l'armer. Hein, il va aller au kibboutz. Bref, hein, Appelfeld nous raconte le lavage de cerveau des jeunes gens à la sortie des camps, ce qui va arriver à tous ces jeunes hommes. Hein, ils sont sans défense. Et paradoxalement, c'est ce lavage de cerveau, ce dressage militaire, qui vont lui permettre de s'en sortir. Sinon, la dépression l'aurait peu à peu gagné et aurait pris le dessus. Voilà. Donc, hein. Donc c'est un roman en demi-teinte, comme ça, où le garçon est sauvé par l'armée et en même temps, il sent bien qu'il est complètement... l'armée israélienne parachève le travail des nazis, quelque part. Voilà ce que raconte Appelfeld. Donc c'est un roman très très fort, sur un pan oublié de l'histoire des Juifs, mais aussi l'histoire du monde, hein, parce que ces jeunes gens récupérés vont donner naissance à un tout nouvel État, l'État d'Israël, qui fait encore le cœur de l'actualité jour après jour. Voilà. C'était donc Le garçon qui voulait dormir, d'Aaron Appelfeld, aux éditions Point. Bonne lecture.
Merci Evelyne pour ce coup de cœur. On te retrouve mercredi prochain, toujours à bord de Wagon Livre sur Radion. Après la pause musicale que nous allons vous proposer d'ici quelques secondes, nous ferons le point avec un des meilleurs spécialistes des questions vaticanes. J'ai nommé Bernard Lecomte. Nous reviendrons avec lui sur la démission du pape Benoît XVI et sur l'élection du prochain pape qui devrait intervenir dans les 15 prochains jours. On vous laisse en compagnie d'Eddy Mitchell, pas de Woogie Boogie. Bonne soirée sur Radion.
Le pape a dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. C'est une nouvelle, il me faut l'annoncer à ma paroisse. Je suis curé. J'ai pris une dose de whisky afin de préparer mon serment. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je me posais bien trop de questions. Au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution. Aussitôt vers l'église, j'ai couru parler à mes fidèles sur ce ton. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout ce cœur. Pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir. Ne faites pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel. Pas de boogie woogie avant vos prières du soir. Puis j'ai réclamé le silence afin d'observer les réactions. Sur certains visages de l'assistance se reflétait surtout l'indignation. Quant aux autres visiblement obtus, sachant qu'ils n'avaient rien compris, ils me demandèrent de faire à nouveau le sermon du boogie woogie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout ce cœur. Pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel. Donc pas de boogie woogie avant vos prières du soir.
mes fidèles sont partis. Dieu, je reste seul dans ta maison. J'en ai l'air, mais le dire à quoi bon? Si ton père m'a fait perdre l'affaire, j'irai tout droit en enfer. Mais j'essaierai encore à la messe de midi le sermon du boogie boogie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, encore une fois, reprenez avec moi tout son cœur. Pas de boogie boogie avant vos prières du soir. Ne faites pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel, ne provoquez pas votre père éternel. Non, pas de boogie woogie avant vos prières du soir. Ah, ne faites pas de boogie woogie avant vos prières du soir. Ne faites pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir.
Contactez Radion, contactez Radion, 03 86 46 50 50. 03 86 46 50 50.
Nous terminons l'émission Wagon Livre avec le meilleur spécialiste des questions vaticanes. On l'a déjà accueilli dans notre émission sur Radion. C'était à l'occasion de la parution des derniers secrets du Vatican aux éditions Perrin. Bonsoir Bernard Lecomte.
Bonsoir.
Bernard Lecomte, vous avez été très sollicité par de très nombreux médias depuis que, coup de tonnerre, le 11 février dernier, Benoît XVI, 85 ans, a présenté sa renonciation. C'était un événement totalement inattendu. Demain, jeudi 28 février, à partir de 20h, le siège apostolique sera déclaré vacant par le camerlingue de la Sainte Église romaine. Alors, première question, Bernard Lecomte, que devient Benoît XVI ?
Alors, il n'est évidemment plus pape, mais il reste homme, d'abord, il reste prêtre, il reste évêque, même s'il n'est plus évêque de Rome, et il reste un intellectuel et un théologien qui, probablement, va passer ses dernières années à méditer, à prier, et probablement à écrire, puisque cet homme-là a écrit toute sa vie.
On l'a beaucoup présenté comme un pape écrivain.
Oui, vous savez, quand j'ai fait sa petite biographie lors de son élection, j'ai été surpris de voir qu'il y avait une soixantaine de titres au nom de Joseph Ratzinger. Alors, parmi ces livres-là, c'est parfois des livres qui recoupent des conférences diverses, mais enfin, quand même, quelle œuvre magistrale pour un théologien qui restera, quoi qu'il arrive, un des plus grands théologiens de son époque.
Alors, il est vrai, Bernard Lecomte, que vous êtes l'auteur donc d'un Benoît XVI avec pour sous-titre « Le dernier pape européen ». C'était en 2011, une biographie autour de ce Panzer cardinal. Pourquoi cette expression de Panzer cardinal ?
Alors, ce n'était pas une expression gentille. Je me souviens que c'est le journal L'Express qui l'avait utilisé sur un fond d'anti-germanisme primaire. Parce que Joseph Ratzinger était allemand, parce que, comme tous les Allemands de son époque, à l'âge de 12 ans, il avait été recruté dans les jeunesses hitlériennes, et parce que il avait une image de conservateur, voire de réactionnaire pour certains, l'Express avait cru bon, en effet, d'inventer cette figure de Panzer cardinal. Encore une fois, c'était pas très positif. L'Express n'a pas été le seul. Il y a d'autres journaux qui l'avaient appelé le berger allemand, le Rottweiler de Dieu. Enfin, il y a eu comme ça des surnoms qui montraient bien qu'il n'était pas forcément accueilli avec des applaudissements partout.
Alors, à partir de demain, les cardinaux, alors ils sont 209, mais il n'y aura que 118 électeurs, si mes sources sont fiables, hein, Bernard, je compte sur vous.
Oui, parce que depuis Paul VI, il y a une règle, c'est que les cardinaux perdent leur droit de vote à l'âge de 80 ans. Alors, croyez-moi, pour en connaître un ou deux, il y a des cardinaux tout à fait furieux de ça, qui se disent « Mais enfin, moi, je n'ai que 85 ou 87, et je vois pas pourquoi je suis privé du droit de vote. » C'est comme ça. Le pape Paul VI avait érigé cette règle. Aujourd'hui, il y a 117 ou 118 cardinaux qui auront moins de 80 ans aux alentours du 12 mars, puisqu'on saura incessamment, là, la date définitive du conclave. Il y a peut-être des cardinaux qui décéderont avant. Donc, on peut estimer que le conclave réunira dans la chapelle Sixtine 117, 116 ou 115 cardinaux.
Alors, on est très loin d'une élection politique. Est-ce qu'on peut être candidat à un poste, un peu farfelu en posant cette question? Peut-on être candidat?
Non, votre question n'est pas du tout farfelue. C'est même un fait historique intéressant de voir que cette élection-là est unique dans l'histoire, puisque c'est la seule élection où il n'y a ni campagne, ni candidat, ni programme. Avouez que c'est quand même pas banal, et donc vous voyez que votre question est tout à fait justifiée. Le principe est le suivant, on ne prétend pas devenir pape. C'est une responsabilité telle que ce serait vraiment faire preuve d'un manque de modestie ou d'humilité que se dire « voilà, moi je voudrais être pape ». Non, ce sont les autres qui vous choisissent. Donc, il faut avoir les deux tiers des voix des cardinaux pour devenir pape. Pas de programme, évidemment, puisqu'il n'y a pas de candidat. Donc, on ne peut pas imaginer qu'on dise à quelqu'un, voilà, on va vous choisir, éminence, mais il faudra faire ceci ou cela. Ça n'existe pas. Et pas de campagne, puisque dans l'enceinte du conclave, on ne peut pas faire sa propre publicité. En revanche, on peut parler, on peut dire, voilà, moi je suis plutôt pour lui ou je suis plutôt pour l'autre, à condition que ça se fasse à haute et intelligible voix. Pas de messe basse au conclave. Et vous comprenez bien pourquoi ? C'est pour que tout ça se passe dans la transparence absolue de ces gens qui sont réunis là avec un enjeu, élire le prochain pape en toute liberté. En remettant tous les compteurs à zéro, et il n'y a plus à ce moment-là de cardinaux à la tête de telle préfecture, de telle congrégation, de tel tribunal, il n'y a plus qu'un camerlingue, donc c'est le cardinal qui s'occupe de la succession, qui gère un peu tout ça, et puis le cardinal doyen du Sacré Collège. Qui, d'ailleurs, pour le coup, ne sera pas le vrai doyen, cardinal Sodano, parce qu'il a plus de 80 ans. Voilà. Donc, il y a ces deux personnes qui, simplement pour des raisons d'organisation, sont là pour prendre les décisions. Mais il y a 116 ou 117 cardinaux qui sont à égalité pour choisir parmi eux le successeur du Saint-Père.
Alors, on a bien sûr parlé de lassitude du pape. Il se pose toujours le problème de pape âgé. Il y a eu ce Jean-Paul II admirable qui, lui, est allé jusqu'au bout de son rôle de pape, ce pape qui s'est montré comme un Christ souffrant, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Ratzinger, qui, lui, a l'honnêteté, sans doute intellectuelle, de dire « moi, je ne peux pas accomplir correctement ma charge ». Est-ce qu'on peut penser, Bernard Lecomte, que le prochain pape sera plus jeune? Parce qu'il est question d'un favori, je crois, canadien, qui aurait 68 ans. C'était un peu irraisonnable d'essayer d'organiser ce que l'Église va décider, un pape plus jeune, parce que les commentateurs disent que le prochain pape s'inscrira dans la continuité conservatrice de Benoît XVI. Qu'en pensez-vous, Bernard Lecomte?
Alors, moi, je crois que l'âge du pape n'a quasiment aucune importance, à condition, évidemment, de rester dans une fourchette raisonnable. On n'élirait plus aujourd'hui un pape de 85 ou de 90 ans. En revanche, vous citiez justement Jean-Paul II et son agonie. Jean-Paul II avait justement été élu à 58 ans. C'était un des plus jeunes papes de l'histoire. Rappelez-vous aussi le cas de Jean XXIII, 40 ans avant, qui a été élu à 77 ans. Donc tout le monde avait dit « oulala, c'est quand même assez vieux ». Et finalement, ce vieux pape, Roncalli, c'est lui qui aura décidé la plus grande révolution de l'histoire de l'Église moderne, à savoir le Concile Vatican II. Donc méfions-nous des papes âgés ou pas âgés. Je crois que ça n'a plus tellement d'importance, d'autant plus que si un pape qui se sent diminué physiquement, soit intellectuellement, soit physiquement pour les longues cérémonies, les voyages, etc., etc., comme c'est un peu le cas de Benoît XVI, si un pape peut démissionner, l'âge de son élection n'a plus d'importance, puisque pourquoi ne pas élire un pape même un peu vieux, puisqu'on sait que si vraiment il décline, il se retirera pour laisser la place à un nouveau successeur. Je crois vraiment que l'âge n'a plus d'importance. En revanche, ce que vous avez dit est très important pour le coup. C'est-à-dire, plutôt que l'âge, on va choisir un caractère. On va choisir une personnalité qui va en effet prendre la suite, non seulement du dernier pape, mais des derniers papes, et qui va fédérer l'Église universelle autour de lui. Autour de cette formule, c'est pas de la langue de bois, autour de cette formule, il y a un vrai enjeu. Cet enjeu, c'est l'unité de l'Église. L'Église catholique, aujourd'hui, c'est 1 milliard 200 millions de personnes disséminées à travers le monde, dans leur diversité de culture, de tempérament, d'acceptation des réformes ou pas de réformes, etc. L'Église, aujourd'hui, est incroyablement diverse. En quoi peut-on comparer le petit séminariste uruguayen, de la religieuse au fond du Cameroun, ou du prêtre rebelle en Chine, que sais-je? L'enjeu pour le chef de l'Église, c'est de préserver dans les temps qui viennent l'unité de l'Église. Les temps qui viennent, c'est une planète qui tourne de plus en plus vite, avec des problèmes de plus en plus graves, et qui, évidemment, met en péril à chaque fois l'unité de l'Église, parce qu'il y aura telle partie de l'Église dans telle partie du tiers-monde qui réagira autrement que peut-être nous dans nos pays riches européens. Donc ça sera un enjeu numéro un, me semble-t-il, et c'est pour ça qu'il faut s'attendre à l'élection d'un pape fédérateur plus qu'un pape réformateur ou conservateur, comme on a l'habitude de le dire. Vous savez, on a l'habitude d'analyser l'Église et le conclave avec les outils intellectuels de la politique. Alors, comme c'est une élection, voilà, on imagine des groupes de pression, des clans, des stratégies, etc. Et de même pour l'Église, on s'imagine qu'elle va être plus ou moins réformatrice ou moins réformatrice. Non, l'essentiel pour l'Église, c'est d'être unie et fidèle à son message. Le reste, c'est secondaire. La fidélité au message, c'est simple, hein, c'est la révélation, c'est l'Évangile. Donc on attend d'un pape qu'il soit le promoteur de l'Évangile, le promoteur des valeurs évangéliques. Alors, à partir de là, il peut être plus ou moins intellectuel. Hein, on a eu un théologien avec Benoît XVI, on avait eu un intellectuel avec Paul VI. Jean-Paul II était moins intellectuel, peut-être plus philosophe en tout cas que théologien. Donc chaque pape a son caractère. Rappelez-vous aussi Jean XXIII, l'homme du Concile, qui n'aimait pas les théologiens. C'était pas son truc, il l'avait dit plusieurs fois en faisant un peu sourire, évidemment. Mais il se méfiait beaucoup des théologiens, Jean XXIII. Lui, il croyait à la pastorale. Lui, c'était l'homme du contact avec les gens, du contact avec la foule, et rien ne lui faisait plus plaisir que de rencontrer justement des gens de sa région ou de Venise où il avait été patriarche, etc. Donc vous voyez que chaque pape a son caractère, mais la finalité, la vocation de chacun, c'est toujours la même. C'est quand même de porter l'Évangile, de porter la révélation, c'est-à-dire d'annoncer la bonne nouvelle, comme on dit. Annoncer la bonne nouvelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, Jésus est bien né, il a bien existé, c'est bien le Fils de Dieu et il est là pour sauver les hommes. Alors après, on y croit ou on n'y croit pas, chaque personne, chaque nation, chaque communauté, chaque continent prend ce message évangélique avec plus ou moins de réserve, plus ou moins d'enthousiasme. Mais la vocation du pape, c'est quand même ça, c'est d'abord d'annoncer l'Évangile.
Alors on a essayé de synthétiser le pontificat de Benoît XVI. On a retenu quand même, un certain nombre de polémiques. Il y a eu le discours de Ratisbonne, la gaffe de Ratisbonne, dont vous parlez dans les derniers secrets du Vatican.
J'ai mis le mot gaffe entre guillemets hein, dans mon livre. Si c'est ça votre référence, oui. Il y a des guillemets.
Bon, ce discours, sans doute un peu fort à l'égard de l'islam. Il y a eu la polémique sur le préservatif lors d'un voyage en Afrique. Et puis, il y a eu aussi, on a dit, l'ambiance au sein même du Vatican, un esprit de courtisan, de cour, de quelque chose d'assez pénible que le
et puis le pape n'aurait pas trop supporté. Voilà. Et puis il y a eu l'affaire de la pédophilie qui est la plus importante de toutes, parce que autant les autres affaires ont pu faire du mal, ont pu causer des torts, ont pu émouvoir, la plupart du temps ce sont des malentendus ou des pataquès quand même, parce qu'on se rend bien compte aujourd'hui que l'Église a du mal à communiquer avec les médias modernes qui vont beaucoup plus vite, qui demandent une simplification, qui sont souvent binaires. L'Église a du mal à se situer par rapport à ça. Le plus grand scandale de tout ça, c'est la pédophilie, incontestablement, parce que ça touche absolument à toute l'Église. Quand vous dites, par exemple, l'affaire Vatilix, la dernière, vous savez, celle où le majordome du pape a été arrêté, bon, ça regarde quoi? 2000 personnes, la curie romaine, l'institution vaticane, ça n'engage en aucun cas le reste de l'Église, cette histoire-là. En revanche, la pédophilie, oui. Alors, pour répondre à votre question globale, oui, probablement, toutes ces affaires ont affecté Benoît XVI. Parce que quand même, il en sortait à peine d'une affaire qu'il en avait une autre, et ça doit quand même être extrêmement difficile. Et puis je pense à des au côté psychologique des choses. Imaginez ce que ça doit être pour un pape d'avoir cette affaire de pédophilie qui touche plusieurs pays, des dizaines de gens, des centaines de gens, avec des souffrances terribles de la part des victimes d'abord, et puis aussi à l'intérieur de l'Église, ceux qui à l'époque se demandaient s'il fallait dénoncer, pas dénoncer, etc. C'est extrêmement pesant. Et puis même l'affaire Vatilix et le majordome, vous savez, quand vous êtes trahi par votre majordome, c'est pas très sympathique, hein. Vous devez en effet l'avoir mauvaise, parce qu'après tout, l'entourage immédiat du pape, c'est sa famille, quelque part. Donc le pape a été incontestablement affecté par tout ça, mais je crois, moi, qu'il a justement pris sur lui pendant toute cette période. Peut-être avait-il l'intention ou l'idée de démissionner. Il ne l'a pas fait. Il s'en est expliqué dans un livre. Il a dit on ne peut pas démissionner en période de tempête. Il faut attendre un peu de calme. Alors là, je pense que Benoît XVI a estimé qu'il y avait une période un petit peu calme où il pouvait, en effet, passer le témoin sans créer de bouleversements trop dangereux.
Passer le témoin juste avant la grande fête de Pâques, bien évidemment. Et puis, ce sera donc le 266e pape qui serait élu. Bernard Lecomte, pourquoi cette fumée blanche qui s'échappe pour annoncer l'élection d'un pape ?
Alors ça, c'est une vieille tradition d'ailleurs. Elle est tellement vieille qu'elle est, elle est devenue quand même obsolète. Si vous regardez le Vatican aujourd'hui, un soir de conclave, vous vous rendez compte que cette histoire de fumée blanche, ça marche jamais, ou presque. Pourquoi ? Parce que d'abord, on a beaucoup de mal à mettre des fumigènes dans le fameux poêle de la chapelle Sixtine pour faire en sorte que la fumée soit blanche, et même si on réussit cette opération chimique, la fumée qui sort de la chapelle Sixtine, comme elle est à contre-jour, de toute façon, elle est noire. Donc vous voyez qu'on est là dans un rituel tout à fait suranné. Bon, le rituel, ça compte, la tradition, ça compte aussi. On pourrait tout à fait imaginer un feu vert et un feu rouge ou un drapeau, ça ne changerait rigoureusement rien. Bon, c'est la tradition. On montre aussi, parce que dans ce feu, on brûle les bulletins de vote. Donc on montre aussi, par ce geste et cette tradition de la fumée, que le silence doit être respecté. Il ne doit rien rester des délibérations d'un conclave. Voilà. Mais encore une fois, ne nous arrêtons pas trop à ce qui est une vieille tradition qui doit dater au moins de 3 ou 4 siècles. J'avoue que vous me posez une colle, je ne sais plus de quand elle date, cette tradition. Mais enfin, voilà, on faisait signe au peuple de Rome que le pape était élu par cette fumée à une époque où, bien sûr, il n'y avait ni télévision, ni radio, ni Twitter.
Alors, Bernard, on aura l'occasion de parler de votre prochain ouvrage, c'est La Bourgogne pour les nuls.
Alors, on change tout à fait d'idée, là, voilà. Bah, écoutez, en principe, je crois que c'est début juin que doit paraître donc La Bourgogne pour les nuls. Vous connaissez cette collection, là, pour les nuls, qui a l'informatique pour les nuls, l'histoire de France pour les nuls, etc. Les éditeurs sont venus me proposer de faire ça l'année dernière. Bon, c'était pas tout à fait dans mes livres habituels, mais finalement j'ai accepté parce que j'adore la Bourgogne, et puis parce que c'est un challenge amusant pour un écrivain, justement, de rassembler toute une documentation sur l'histoire, la géographie, les atouts et les faiblesses de la Bourgogne. C'est un gros livre, hein, c'est un gros livre pas cher. C'est comme ça qu'ils le présentent les éditeurs. C'est l'édition First. Et bah écoutez, j'espère qu'il sera fait un bon accueil à ce livre, qui permettra en effet, notamment, de synthétiser ce qui ne se fait presque jamais, la Bourgogne des 4 départements. Vous savez, il y a toujours énormément de livres sur les ducs de Bourgogne, ou sur Lyon, ou sur les vins de Bourgogne, mais il y en a très peu qui vous racontent les 4 départements de la Bourgogne. Et c'est vrai qu'on ne pense pas toujours, quand on est dans Lyon, à la Saône-et-Loire, et qu'est-ce qu'on a à voir, nous, les Iconnais, avec les Nivernais. Eh bien là, vous aurez en effet la synthèse, la totale. Enfin, j'espère en tout cas que le livre aura un bon accueil.
Merci Bernard Lecomte. Je rappelle que vous êtes un des meilleurs spécialistes des questions vaticanes. On rappellera votre Benoît XVI, sous-titré Le dernier pape européen, à se procurer d'urgence aux éditions Perrin. Et puis Les derniers secrets du Vatican, qu'on devrait trouver peut-être à l'automne prochain dans une collection de poche.
Pas encore, non. Ça sera seulement l'année suivante. Pour l'instant, là, il y a un poche qui sort ces jours-ci, qui va s'appeler « L'histoire des papes de 1789 à nos jours ». C'est dans la très bonne petite collection Tempus, une collection pour les amateurs d'histoire connaissent bien cette collection Tempus, et je suis très fier de publier ce livre dans cette collection Tempus, qui est tout à fait remarquable. Et donc voilà, ça permet, c'est un petit livre qui permet de retracer toute l'histoire des papes depuis la Révolution.
Merci Bernard Lecomte d'avoir répondu à nos questions pour Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion, et on attend l'élection donc du prochain pape courant mars, d'ici une dizaine de jours vraisemblablement. Merci Bernard.
Merci à vous.
Il nous reste quelques minutes avant de nous dire au revoir. Je voudrais partager avec vous quelques rendez-vous littéraires et culturels, ainsi que des informations éditoriales. Tout d'abord, le 14 mars prochain, ce sera un jeudi à partir de 19h30 au Théâtre d'Auxerre. La librairie Oblique organise une soirée littéraire autour du thème du sport, avec la participation d'Eugène Saccomano pour son roman « Céline coupée en deux » aux éditions du Castor Astral. Il y aura également Guy Roux et Adrien Bosque, créateur des revues Feuilleton et de sport, ainsi que Louis Dumoulin, éditeur de la revue Books. Alors Eugène Saccomano sera donc à Auxerre ce jeudi 14 mars à partir de 19h30 au théâtre. Eugène Saccomano, ce n'est pas que la voix mythique du football à la radio, mais c'est aussi un passionné de littérature et c'est un auteur reconnu. On lui doit par exemple le roman Bandit à Marseille, dont l'adaptation cinématographique n'est autre que Borsalino. Eugène Saccomano sera donc présent à Auxerre pour parler de son dernier roman, intitulé, je le répète, Céline coupée en deux, et qui est consacré aux deux visages de l'auteur du Voyage au bout de la nuit. D'ici quelques jours va commencer la 15e édition du Printemps des Poètes, qui se déroulera du 9 au 24 mars prochain dans toute la France. C'est une manifestation nationale. Le thème de cette année, c'est Voix de poèmes. N'oubliez pas aussi que ce sera l'occasion peut-être de redécouvrir l'œuvre du poète chilien Pablo Neruda à l'occasion du 40e anniversaire de sa disparition. Pour plus d'informations en région et notamment en Bourgogne, rendez-vous sur le site internet du CRL Bourgogne, le Centre Régional du Livre. Autrement, pour les manifestations nationales, vous vous rendez sur le site du Printemps des Poètes en tapotant et en pianotant sur votre clavier d'ordinateur www.printempsdespoètes.com. Au mois de mars aussi, autre très grand rendez-vous, ce sera le 33e Salon du Livre de Paris. L'invité d'honneur cette année, ce sont les lettres roumaines, et la ville de Barcelone est également ville invitée. En 2013, sachez que 45 pays seront représentés au Salon du Livre de Paris et 192 000 lecteurs, dont 35 000 professionnels du livre, y sont attendus. À ce sujet, concernant le Salon du Livre de Paris, le Centre Régional du Livre de Bourgogne se réjouit d'accueillir 8 éditeurs sur son stand parmi lesquels les éditions de Bourgogne, les éditions du Chemin de Fer, D'un noir si bleu, Éveil et découverte, les éditions Faton, les éditions du Murmure, les éditions Raison et Passion et les éditions auxerroises Rhubarbe. Et bien tous ces éditeurs se trouvent donc au stand C49, porte de Versailles, au Salon du Livre de Paris. C'est du 22 au 25 mars prochain. D'ailleurs, au Salon du Livre de Paris, vous pourrez découvrir sur 180 mètres carrés l'histoire graphique du livre de poche qui fête cette année ses 60 ans. Résidence d'écrivain, cette fois-ci c'est beaucoup plus proche de nous géographiquement puisque c'est à Vézelay, à la maison Jules Roy. Du 1er mars au 28 mai prochain, Gilles Joinard, journaliste et responsable éditorial dans une société d'édition d'ouvrages encyclopédiques, sera le premier résident à la maison Jules Roy à Vézelay. Il a mis en place au Centre National du Livre la commission d'attribution des bourses aux écrivains en résidence et Gilles Joinard a collaboré à de très nombreuses revues littéraires et a publié plus de 40 livres. Il est le président de l'association Chemin Faisant, association des amis de Jacques Lacarrière. On aura sans doute l'occasion d'en parler. À Sens, cette fois-ci, dans le cadre de la Semaine du Livre et de la Lecture de la Ville, la Maison des Jeunes et de la Culture, les bibliothèques de Sens et la librairie À Tout à Lire proposent un salon du livre jeunesse les 15 et 16 mars prochains dans les salons de l'Hôtel de Ville de Sens. Actualité éditoriale, le deuxième numéro de la revue Carré est disponible en librairie. La revue Carré, judicieusement conçue pour être glissée dans la poche, dans le sac ou la valise à roulettes, eh bien Carré est le compagnon idéal du voyageur, qu'il parte pour l'Antarctique ou qu'il entreprenne le tour de sa chambre. C'est ainsi que cette revue intéressante, c'est ainsi qu'elle se qualifie, c'est ainsi qu'on peut effectivement la définir, du beau papier, une belle impression, de très belles photos, des textes d'une absolue variété, de la poésie et beaucoup d'humour. Alain Moret, le rédacteur en chef, et Jean-Paul Rousseau, que nous avons reçu au mois de décembre, Jean-Paul Rousseau est directeur de la publication de la revue Carré. Il y a notamment un texte inédit de Engels, Friedrich Engels, visitant Auxerre, et un texte dans lequel Engels nous livre sa vision de la cité des bords de Lyon. Je voudrais aussi, toujours dans l'actualité éditoriale, mentionner la parution du dernier numéro de Pays de Bourgogne, c'est le numéro 235 de janvier 2013, qui est entièrement consacré au pays châtillonnais, terre du Crémant. Alors Châtillon, où se trouve le fameux vase de Vix, chef-d'œuvre grec unique au monde, d'une capacité de 1100 litres. Il y a également un article très intéressant consacré aux Châtillonnais célèbres. On y apprend que Francis Carco y passa une partie de son enfance ou que Kiki de Montparnasse y naquit. Et puis enfin, Claude Lévi-Strauss posséda une maison de campagne à Lignerolles où il est enterré, petit village situé à 20 km de Châtillon. Je vous donne pour ma part rendez-vous mercredi prochain, 6 mars, à partir de 21h, pour un nouveau numéro de Wagon Livre, une émission et un entretien avec Gérard Calmette pour Kader Aziz Aubry de Vézelay à Béjaïa, paru aux éditions de l'Armançon l'an dernier. Il y sera question d'exotisme pictural puisque Gérard Calmette évoquera Émile Aubry, un peintre pied noir, disparu en 1964, qui repose d'ailleurs au cimetière de Voutenay-sur-Cure, et notre invité reviendra aussi sur l'indépendance de l'Algérie, lui qui fut appelé sous les drapeaux en Algérie dès 1957. C'est mercredi 6 mars prochain sur Radion, à bord de Wagon Livre, toujours à partir de 21h sur le 90.5. Merci de nous avoir suivis, excellente soirée à toutes et à tous, au revoir. We'll be right back.